Pour beaucoup de gens encore, si je fais mes paiements avec ma banque, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, quoi. En fait, c'est hyper stratégique. Milliers d'anecdotes de personnes qui ont perdu des business, raté des opportunités, parce qu'un paiement n'arrive pas, parce qu'on ne s'est pas bien couvert et toutes les marges explosent. Donc, c'est en fait hyper stratégique.
Comment est-ce qu'on arrive à créer de la confiance dans un marché comme celui-là, en fait ?
Il fallait mélanger de la tech et du human touch. Il fallait assumer ce qui pouvait paraître contradictoire dans un monde de scalabilité où il faut que des IA, en disant non, non, nous, tu auras toujours un humain au bon moment. On doit embarquer des clients, on est régulé, hein, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, un client, il doit passer par ce qu'on appelle un KYC, donc on l'appelle. Donc en fait, 100% de nos clients sont onboardés avec un appel. On était très lead gen avant, moi j'étais le bon héroïste, voilà. Donc on avait des bons white papers gatés avec des bons emails, et puis on s'est rendu compte que voilà, les sales râlaient parce qu'ils avaient vraiment de la mauvaise qualité, des gens qui n'étaient pas prêts, tu pouvais pas télécharger un truc que tu étais déjà appelé par 10 personnes. Donc on est passé vraiment dans le demand gen classique, enfin qui est devenu classique maintenant.
Et le côté gated, ungated, vous avez ungated des choses ?
Ah ben on a tout ungated.
. 350 employés présents dans 10 pays et gérant plus de 1,4 milliard d'euros de transactions chaque mois. Ce sont les chiffres impressionnants de IBAN First, une scale-up spécialisée dans les activités de change et de transfert d'argent en B2B. Alors, on va être honnête, le marché du transfert d'argent, c'est pas le plus facile à adresser. Les acteurs en place dessus sont des grosses institutions financières généralement. Ça nécessite beaucoup de ressources et surtout de gagner la confiance des entreprises. Et pourtant, IBAN First s'y est fait une place de choix en moins de 10 ans seulement. Comment ont-ils réussi ce tour de force ? Pour répondre à cette question, j'accueille aujourd'hui le CMO d'IBAN First, David Remeau. On a eu l'occasion de parler entre autres de leur stratégie d'acquisition, du passage d'une approche lead gen à demand gen, de leur expansion en Europe et des challenges de la présence des fonds d'investissement pour un marketeur. Mais avant ça, vous connaissez la routine, un like, un abonnement 5 étoiles. Bonne écoute. David, est-ce que tu peux nous présenter IBAN First ? Parce que c'est pas... Enfin, moi, je me sens pas là, tu vois, de présenter le business. Je pense que je le ferai pas aussi bien que toi. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, IBAN First, on aide les PME qui font du business à l'international. Donc, ils vont soit collecter des fonds pour se faire payer par leurs clients, soit payer des fournisseurs. On les aide sur leur partie paiement, qui est technique, et sur leur partie aussi échange, monnaie. L'exemple typique, c'est quelqu'un qui va acheter des produits en Chine et qui va devoir payer un fournisseur dans une autre monnaie, en dollars par exemple. On va l'aider avec la plateforme, ça va être plus rapide, plus transparent. On va aussi lui permettre de suivre son paiement pour pouvoir dire à son fournisseur qu'il a bien reçu les fonds. Et un peu plus technique, pour ceux qui connaissent, on fait de la couverture de change. En gros, les taux de change fluctuent énormément, ce qui peut être très impactant au niveau business. Donc on peut fixer un taux dans la durée, une forme d'assurance en fait, pour aider les PME.
Ok, et ce que tu appelles une PME, c'est jusqu'à quelle taille globalement ?
PME, nous, on va regarder beaucoup le flux en devises. Voilà, donc on parle de centaines de milliers, de millions, dizaines de millions. En taille de boîte, ça peut être 5, 10 personnes, jusqu'à 1000 personnes. On est quand même sur des sociétés qui sont déjà déployées à l'international, donc ont déjà un peu de business. Mais ça peut être très varié en termes d'industrie. Ouais.
Et du coup, en termes d'industrie. J'imagine que c'est très lié aussi à l'industrie.
Très lié. Tu peux avoir ce qu'on appelle des grossistes, hein, qui sont des gens qui vont vraiment prendre un produit et le revendre avec peu de marge. Donc ça, souvent, c'est quelquefois c'est des petites boîtes. J'aime beaucoup donner l'exemple souvent à nos clients aux Pays-Bas, Daily Onions. Il est spécialisé dans l'import-export d'oignons. Voilà, donc très pur player, mais c'est des millions de tonnes et d'euros. Et nous, on l'aide sur ces flux qui sont très critiques. Ou ça peut être des sociétés un peu plus établies, plusieurs centaines de salariés dans 10 pays qui ont des flux même internes quelquefois. Donc c'est très, très varié, très, très varié.
OK. Pour la petite anecdote, j'ai commencé ma carrière en tant qu'acheteur chez Valeo Équipementier Automobile et un gros boulot de l'acheteur, c'était effectivement d'avoir un œil sur les devises. Parce que c'est vrai que pour une boîte comme ça qui brasse des milliards, bon là c'était des milliards, et ben un changement de devise en fait, ça vient complètement plomber tes performances financières. Donc oui, effectivement, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quand même un vrai gros enjeu des boîtes qui font du commerce international. Quoi. C'est un truc de dingue.
Pour l'anecdote, quand j'ai rejoint IBAN First il y a 4-5 ans, avant de venir, j'ai un peu demandé à des directeurs financiers autour de moi ce qu'on pensait. En fait, il y a quand même on est sur un métier d'équipement encore peu connu. Pour beaucoup de gens encore, si je fais mes paiements avec ma banque, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, quoi. En fait, c'est hyper stratégique. Milliers d'anecdotes de personnes qui ont perdu des business, raté des opportunités, parce qu'un paiement n'arrive pas, parce qu'on ne s'est pas bien couvert et toutes les marges explosent. Donc, C'est en fait hyper stratégique comme métier. Et puis, on peut faire beaucoup d'économies aussi, hein, très, très honnêtement. Rien contre les banques, hein, mais on s'occupe un peu mieux des PME que les grandes banques qui sont très grands groupes ou individuels.
Okay, voilà. Très bien. Bon, toi, tu as un parcours un peu particulier parce que du coup, tu as commencé développeur. Après, tu étais directeur commercial. Après, tu as été intrapreneur, entrepreneur. Pour finir, CMO d'Even First. Pourquoi ?
Pourquoi tant de haine ? Non, mais la tech, on va dire que c'est de commencer par la tech. Ouais. Donc, je suis arrivé, c'était pas du SaaS à l'époque, mais on était déjà sur des logiciels, les premiers déploiements Java, Servlet, pour ceux qui se souviennent. Moi, je suis rentré dans la tech parce que j'étais passionné par la tech, et puis sortant d'école d'ingénieur tech, on faisait du dev. Je me suis un petit peu ennuyé au bout d'un certain temps. J'étais pas non plus le meilleur développeur, je pense. Et donc, dans la startup dans laquelle j'étais, qui est en train de pivoter, ils m'ont proposé de devenir le directeur commercial, parce que je passais peut-être plus de temps en clientèle que derrière mon écran. Voilà. Donc là, c'était un peu le premier saut, un peu business, où j'ai un peu pris le bouillon au début, parce que je comprenais rien. Mais c'est vrai que la passion du business et puis de rentrer les clients, ça s'est bien passé. Bon, je la fais courte, mais en gros, direction commerciale, gérer des équipes commerciales. Et puis après, j'ai eu envie de monter ma propre boîte. Je l'ai fait un peu en interne. Alors tout ça, c'est dans un groupe qui s'appelait Alcatel-Lucent à l'époque, dans les télécoms. Donc j'ai fait différents métiers dans le même groupe. C'est bien les grands groupes. Et j'ai monté une business unit à l'intérieur du groupe, sur des opérateurs virtuels. C'était de l'entrepreneuriat parce que j'avais quand même de l'argent du groupe, ce qui aide beaucoup.
Oui, bien sûr.
Et puis, bah, toujours très commercial. Et une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai passé le pas et j'ai monté ma propre boîte dans les objets connectés. Donc, on en parle à 2007. Donc, c'était un peu, j'allais de plus en plus vers le business. Et pourquoi le marketing ? C'est vrai que, un peu partout dans le parcours et en particulier dans la boîte que j'ai montée, bon, j'ai quand même réussi à vendre. En fait, à chaque fois que je merdais, pour faire simple, c'était toujours des sujets de marketing. En gros, j'arrivais à trouver des très bons sales, j'arrivais à trouver des bons techs, mais des problèmes de business model, des problèmes de go-to-market, des problèmes de marque, des problèmes de pricing. Bon, à l'époque, je ne savais pas trop que c'était tout ça. Donc, j'ai commencé, moi, à me former beaucoup à ces sujets-là, donc moi-même, à me former au marketing. Et quand la société, donc j'ai vendu ma société qui s'appelait Plug & Serve, j'ai vendu à Netgem en 2012, après avoir intégré la société, le patron m'a proposé de prendre le marketing, parce que j'avais quand même beaucoup de réflexions. Et c'est comme ça que j'ai basculé côté D'accord. marketing. Avec à l'époque, en 2012 quand même, assez peu de marketing B2B en fait. Maintenant, c'est bien, c'est génial. On a une génération, je trouve, incroyable de marketeurs B2B. Mais en 2012, il fallait avoir du côté des Américains, des Salesforce. En France, c'était un peu vide. Donc je me suis dit, voilà, je vais prendre le créneau, et puis voilà, après, au-delà des erreurs, je pense que... Enfin, en tout cas, ma vision d'un CMO B2B aujourd'hui, c'est de la data, c'est de la tech, bien parler avec les sales, hyper important, donc mon expérience de sales m'aide bien.
Bah oui.
Et puis, il y a un côté entrepreneur, quand on est face à un board ou un investisseur, ou voilà, savoir ce que c'est que lever des fonds, vendre une boîte, ça peut aider par rapport à la stratégie. Donc, finalement, ça m'a pas mal aidé, mais mon cœur est côté marketing maintenant.
Ouais. Ça y est, maintenant c'est clair et net. Il n'y a pas de retour en arrière.
C'est jamais, mais ouais. Aujourd'hui c'est ma passion. Ouais.
Excellent. Si on revient un peu sur Even First, donc marché finance, marché confiance, c'est vraiment je pense que l'asset numéro un, c'est arriver à créer de la confiance sur le fait que l'argent va être bien traité.
Ouais.
Even First, c'est une boîte qui a globalement 10 ans.
Enfin, c'est ça. Alors, le vrai démarrage, c'est 2016. Ça fait bientôt faire 10 ans. Ouais.
OK. Donc, boîte plutôt jeune, en tout cas, dans ce secteur-là, parce que tu mentionnais les banques qui sont des institutions. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à créer de la confiance dans un marché comme celui-là, en fait ?
Alors, notre tagline « Trust Beyond Borders », déjà, il faut l'afficher. Je pense que c'est très important d'en faire une valeur marketing, mais une valeur de boîte. Et je pense que Pierre-Antoine, le fondateur, est très sensible à la confiance. Donc, la confiance, ça part des clients. Donc, on est très, très client-centrique. Alors, je peux même faire quelquefois un peu trop, c'est-à-dire que on ne veut pas exposer nos clients. Moi, en tant que marketeur, j'aimerais bien que tous nos clients, on en parle partout, mais il y a vraiment une culture très forte du respect du client, ce qui est une force.
Respect ou secret ?
Respect secret, c'est aussi ce qui va avec aussi, tu vois, parce que les gens n'ont pas forcément envie de dire où ils mettent leur argent et qui mettent leur argent. Enfin, donc ça va avec, en fait. Donc je pense que ça, c'est la confidentialité est clé, les enjeux de de sécurité. Tout ça, c'est vraiment dans notre ADN et c'est très clair. Après, d'un point de vue marketing-com, c'est accepter de faire de brand awareness, de l'awareness, ce qui fait peur un peu justement dans un monde d'investisseurs de fonds. On n'a pas envie d'investir là, pas héroïser. Donc, très concrètement, on a toujours, dès que je suis arrivé il y a 4-5 ans, investi dans la presse. Les Échos, BFM, puis dans tous les pays où on est, c'est important d'avoir des visages, identifier les patrons des pays, être visible dans la presse. C'est basique, mais ça, c'est très, très important. On a été un cran plus loin. On a recruté une superstar de la com qui nous a rejoint pour vraiment nous aider là-dessus. Ce qui pouvait à l'époque, très honnêtement, il y a 2 ans, le fonds nous disait non mais on va pas investir dans la com, c'est pas possible. Mais c'est vraiment notre ADN. Il faut accepter de faire cet investissement et puis de le récupérer, je dirais, ailleurs. Mais oui, c'est du brand awareness classique, on va dire, qu'il faut faire vis-à-vis de nos cibles, quoi.
Et tu parlais du côté un peu secret, tu vois, des clients, etc., que je comprends totalement. Mais un élément qui crée énormément de confiance, c'est justement social proof, vois, le fait de mettre, des use cases, des choses comme ça. Comment tu...
Alors, ça a été compliqué, ça reste compliqué. Je pense que maintenant, il y a une évolution de la boîte aussi. Ça a vraiment été, très honnêtement, on reviendra sur la relation sales et marketing. Ça a été un des gros sujets, d'achoppement, c'est de se dire, mais si j'expose mon client, en plus, tout le monde va l'appeler, etc. Et de montrer que il faut prendre un risque sur un client pour ouvrir le bénéfice sur plusieurs, qui est très marketing dans la tête, one too many, mais en sales, c'est mon client, je vais le perdre. Ça a été compliqué. Là, je pense que là, on a réussi aujourd'hui à... Enfin, le gros sujet qui m'a fait avancer en 2023, en fait, c'est de la segmentation. C'est con, mais en fait, le fait d'avoir catégorisé nos clients, classiquement par standard premium ou par taille, ça a permis quand même de protéger un certain nombre de clients, tu vois, de se dire, ces clients-là, effectivement, on va peut-être moins les exposer. Par contre, il y a plein de clients qui sont d'ailleurs ravis qu'on parle d'eux parce que ça leur fait de la promotion. Et donc, finalement, d'aider la société, enfin, d'aider Iban First, en fait, à voir que, voilà, pour certains clients, ça pouvait être même bénéfique pour eux. Donc, la segmentation est un moyen d'avoir ouvert ça. Ouais.
OK. Quand tu parles de clients qui sont, qu'il faut absolument pas exposer, c'est lié à leur industrie, par exemple?
Non, c'est pas eux-mêmes, c'est plus. Alors, soit c'est un sujet parce qu'il y a des très beaux clients et on est. Alors, très important de comprendre en business model. Bon, on va dire que c'est du SaaS au sens où c'est une plateforme en ligne, etc. Mais on est dans du transactionnel. On n'est pas sur de l'abonnement. Donc, n'importe qui peut potentiellement appeler un de nos clients et lui proposer un meilleur tarif. Même si aujourd'hui, la proposition de valeur, elle va bien au-delà du prix. Donc, il y a un peu cette peur. Et donc, le fait d'avoir un client qui est visible. Il peut se faire appeler.
Ça devient une proie, ouais.
Ça devient une proie. Et nous-mêmes, on appelle aussi les... Donc, dans un marché en équipement, comme on a aujourd'hui, où un peu tout le monde va appeler les mêmes clients, parce qu'on y reviendra peut-être une erreur, c'est quelque chose qui est vu comme un risque, plus pour nous que pour le client lui-même, qui, à la limite, lui, peut très bien être visible. C'est pas ce que...
Ouais, mais du coup, c'est là où intervient le gros débat risk-reward.
Exactement.
C'est quoi le niveau de risque qu'on est prêt à prendre pour obtenir le niveau de reward qu'on espère obtenir derrière, quoi.
Donc là, aujourd'hui, c'est là où ça avance bien, c'est qu'en fait, typiquement, on est de plus en plus sur Trustpilot. Et en fait, comme on est dans 10 pays, on commence à avoir des... un manque de notes, parce que c'est pas vraiment des mauvaises notes, on a des très très grosses notes, et c'est pas de la promo, on a un NPS énorme, parce que les gens sont contents, c'est plutôt... Comme on n'expose pas, au bout d'un moment, si tu as une note mauvaise ou moins bonne, en fait, ta note est dégradée, en fait, ça impacte tout le monde. Donc en fait, c'est celui qui ne voulait plus partager son client, il devient impacté par une mauvaise note d'un autre. Donc je pense que culturellement, aujourd'hui, il y a un effet collectif qui s'est créé autour de nos clients sont hyper contents. Encore une fois, on a des super NPS. Faisons en asset. Soyons un peu stratégiques sur qui on expose, qui on n'expose pas, à quel moment. Voilà, on n'est pas pour rassurer tout le monde. Et puis voilà, la culture est en train de rentrer et ça, c'est quelque chose qui. Mais ça a été très long. Ça a été très long.
Et tu mentionnais Trustpilot qui, pour moi, est une plateforme très B2C.
Mm-hmm.
Et pourtant, vous, en plus, voilà, c'est. Encore une fois, vous faites du B2B, un secteur un peu stratégique, etc. Je ne m'attendais pas à ce que tu me mentionnes Trustpilot, tu vois.
On a racheté une boîte là au UK, 700 avis sur Trustpilot, alors que ils ont des centaines de milliers de clients, tu vois. Donc non, mais je pense que on le voit partout, hein, l'acheteur qui est nous, le directeur financier, hein, pour nous, ou même le fondateur des boîtes un peu plus petites ou le CEO. Bah, il cherche les avis, puis comme dans sa vie, tous les jours, il va sur Trustpilot. Alors, on a du Captera, on a du Google, on en a d'autres, mais il tape Trustpilot. Donc ouais, c'est les avis, ça dans le B2B, ça, en comportement individuel, ça, nous, on le voit beaucoup.
Ouais, et même auprès de C-level, directeur financier, etc. Okay.
Nous, ce qui va être spécifique, peut-être juste, c'est qu'on a, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a des clients qui ne sont pas tech du tout. Nous, on a des gens qui vont importer des pièces détachées de tracteurs,
des oignons,
des oignons, et donc ils ont même pas de site web quelquefois, ils sont pas sur LinkedIn. Alors eux, Trustpilot, ils savent pas ce que c'est. Donc on a quand même des personas très très variés. Et donc je dis pas que tous nos clients sont sur Trustpilot, mais de plus en plus, il y en a. Et puis plus on grandit, plus on va chercher loin.
La transition est toute trouvée. Stratégie d'acquisition, c'est quoi vos leviers d'acquisition ? Aujourd'hui, c'est quoi les leviers d'acquisition principaux que vous utilisez ?
On est très sales-driven, historiquement. Il faut savoir que le marché, quand Pierre-Antoine a fondé la boîte, il a fusionné deux mondes. Hein. Il a fusionné le monde de la tech et le monde du trading. Parce qu'historiquement, c'était le change. On faisait au téléphone avec des traders. Et puis, les plateformes étaient à côté. Donc, Event First, c'est la fusion des deux. Mais donc, on garde ce côté peut-être moins trader, mais quand même parcours téléphonique. On doit embarquer des clients, on est régulé. Hein, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, un client, il doit passer par ce qu'on appelle un KYC. Donc, on l'appelle. Donc, en fait, 100% de nos clients sont onboardés avec un appel. On n'est pas dans un marché de self-subscription, etc. Et puis, tant mieux, d'ailleurs, parce qu'encore une fois, on gère
des fonds. C'est quand même un peu critique.
Donc c'est vraiment très important et c'est très bien.
Et ça participe à la confiance aussi.
Participe à la confiance, etc. Donc, ça c'est vraiment cœur dans notre secteur, dans notre métier. Et du coup, il y a des sales, 100% des onboardings, il y a des sales. Donc, après, en termes de chasse, historiquement, c'était du cold calling, beaucoup. C'est quelque chose, pour le coup, on a transversé. Ça reste aujourd'hui 80% de cold calling, on va dire. Enfin, de sales, mais qui passent par du cold calling, un petit peu d'emailing, mais c'est quand même beaucoup de l'appel. On est content d'arriver à 20% aujourd'hui d'inbound. Donc ça, c'est en partant de zéro. Donc ça veut dire que deux phénomènes, on a fait du bon boulot, mais surtout, on rentre dans un marché qui est un peu moins de l'équipement. Alors, je ne sais pas si le chasm de Moore, c'est un truc dont on parle quelquefois. On est vraiment dans le chasm de Moore, c'est-à-dire qu'on a eu early adopters qui connaissaient du change, qui négociaient avec plein de banques, qu'on se bat avec nos concurrents directs. Là, maintenant, on rentre dans des gens qui commencent à comprendre les bénéfices des sociétés comme nous, qui font leur recherche de leur côté, qu'on n'avait pas forcément identifié. Donc, l'inbound, aujourd'hui, pour moi, pour nous, c'est surtout un signe que le marché est en train de passer le chasm. On passe les 15-20% de early adopters, on rentre dans le mainstream, ce qui est génial pour l'equity story. Et je pense qu'on a réussi à craquer l'acquisition en changeant complètement notre approche. On était très lead gen avant. Moi, j'étais le bon héroïste. Donc, on avait des bons white paper gatés avec des bons emails. et donc, on a fait ça jusqu'en 2022. Et puis, on s'est rendu compte que les sales râlaient parce qu'ils avaient vraiment de la mauvaise qualité, des gens qui n'étaient pas prêts. Tu ne pouvais pas télécharger un truc que tu étais déjà appelé par 10 personnes. Donc, on est passé vraiment dans le demand gen classique, qui est devenu classique maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, Chris Walker, le gourou du demand gen, enfin en tout cas on a pas mal suivi ses prescriptions, qui consistent à séparer la génération de la demande. Nous, c'est beaucoup, j'ai parlé des RP, beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup même nos clients, de plus en plus des events, enfin voilà, on ouvre complètement le generate demand autour, là où sont nos clients, c'est un peu basique, hein, mais on essaie de les suivre. Et puis la capture, qui elle est vraiment que sur notre site web. On a fait un site web de capture, on ne vient que pour ouvrir un compte quasiment sur notre site web, de manière classique. Et là, les canaux d'inbound, un tiers de reco, un tiers d'ads et un tiers de SEO organique, mais qui est un petit peu difficile à vraiment mesurer. C'est pas que notre marque, c'est des mots-clés autour de meilleure expérience de paiement, transparence de prix. Mais comme on suit moins bien le funnel d'acquisition, on sait qu'ils ne sont pas venus que sur notre marque, quoi. Ils sont venus sur une catégorie dans laquelle nous, on se positionne de plus en plus, qui amène du trafic.
Ok. Et le côté gated, ungated, vous avez ungated des choses ?
Ah ben, on a tout ungated.
Complètement.
Complètement. Alors, c'était, on a, ça a été assez, en fait, on a fait un rebranding de fond. Il s'est passé plusieurs choses. On a vraiment bossé avec Pierre-Antoine, avec le CEO, avec les sales. On a fait vraiment un gros travail. Avec faire la promo avec deux personnes incroyables de Hello Soul qui nous ont vraiment fait travailler sur notre psychologie presque de boîte. Et on a défini tous nos piliers. On a refait notre site web, mais au passage, on a totalement tout ungaté. Et on a en fait gardé le même nombre de leads en volume par mois, mais on a multiplié par 4 les taux transfo. On a augmenté les tailles de boîtes, on a attiré des gens un peu plus gros. Et donc en sortie, on a 4 fois plus de revenus sur les inbound avec le même volume. On était à 5%, on est à 20% et même volume. Donc alors est-ce que c'était bon moment pour nous, etc. Mais on a été assez extrême dans l'application. Et on a un formulaire qui est hyper long. C'est-à-dire que pour s'inscrire, il faut vraiment être très motivé, high intent. Et à la limite, on va pas aider le travail. On ouvre un compte, quoi. Et après, comme on a en plus des sujets de régulation derrière, de KYC, on va presque préparer le terrain. Et si quelqu'un considère qu'il n'est pas prêt à faire l'effort avec nous, bah, il viendra quand il sera prêt. Mais les gens sont contents, donc ça marche. Mmh.
Oui, en fait, quand tu as dit « oui, on a un formulaire qui est très long », la première chose qui m'est venue en tête, c'est de toute façon, après, la personne elle va devoir passer le KYC. Donc en fait, s'il n'est pas prêt à remplir le formulaire, à la limite, bon.
Voilà, c'est ça. Et c'est, bon, ça reste classique, on n'est pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ce côté high intent de gens qui ont fait leur parcours d'achat ailleurs, on a parlé de Trustpilot, nos clients, enfin, on a 10 000 clients. Donc c'est facile de trouver un de nos clients pour lui demander ce qu'il pense de nous. Donc les gens font leur parcours. Et puis, bah, quand ils sont prêts, le site web doit être très clair sur la proposition de valeur, la réassurance. Oui, donc pour le coup, on a beaucoup investi là-dessus.
Et oui. Pour le coup, c'est ça un peu la balance à faire. C'est bon, je fais du volume avec des trucs un peu larges, machin, mais c'est pas très quali. Ou je ungate complètement, veux aller toucher machin. Par contre, il me faut des propositions de valeur hyper fortes.
Gros boulot de messaging. On a interviewé beaucoup de clients. On était très clair sur le site web parce qu'en fait, ça sortait de 6 mois.
Intense.
Avant même le travail de livraison de site web, il y a eu 6 mois très très fort. Je parlais de Sol qui nous a aidés. Nous-mêmes aussi, on a fait beaucoup d'interviews nous-mêmes. Le classique, je dirais, on repart de qui sont nos clients, pourquoi ils viennent chez nous, avec même des tensions en interne. Enfin, à un moment donné, il fallait se décider.
Ah ouais,
ça a été. On fait pas du paiement, on fait de la transaction,
des
sujets un peu on est en fait on fait du FX, on fait pas, enfin le paiement ça a pas de valeur, donc une digestion, mais on est une équipe géniale chez Event First avec des gens incroyables dans tous les pays, et là on a fait un travail collectif de fou, quoi, avec des propositions de valeur. Je vais pas toutes les sortir, mais on a craqué un truc, et je vais même aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est peut-être moins visible au sein de la boîte, mais auquel je tiens beaucoup, c'est que dans ce chasm d'humour, le graal du marketeur, c'est créer une catégorie. Salesforce a créé le CRM, et en fait, c'est en train d'arriver, ça s'appelle maintenant, on est des cross-border payments. Si vous cherchez Event First, vous cherchez des acteurs du cross-border, et c'est ce qu'on a commencé à écrire. Donc on dit, on fait du cross-border payment, B2B, et donc ça, c'était l'an dernier, et Forrester, qui est un analyste pas très connu, un peu comme le Gartner, mais bon, que certains connaissent, vient de sortir son premier mapping des Forrester Player Payment, dans lequel, évidemment, on est. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de créer une histoire, et nous, on s'est positionné sur pourquoi on est différent des autres. Donc c'est un peu, quelquefois, perçu comme un peu non tangible, c'est très messaging, etc. Mais moi, j'y crois beaucoup,
c'est tellement
fait que
important.
Ça ancre.
Ah non, mais...
Et c'est de la répétition, etc. Moi, je pense qu'on a craqué un truc là.
Ouais. Non, mais le sujet du positionnement c'est quoi le bon mot pour catégoriser ce qu'on est en train de faire, c'est beaucoup trop sous-estimé. Tu vois, c'est vraiment sous-estimé. Je sais pas si tu vois, parce que tu lis pas mal de livres business, mais comment elle s'appelle ? Elle a fait un livre sur le positionnement, April Dunford.
Ah bah oui, mais bien sûr, c'est Absolutely Awesome.
C'est pas Absolutely, c'est Obviously Awesome.
Obviously Awesome, bah bien sûr.
Voilà.
Bah, tu vois, je l'ai lu au moment où on a fait.
Et à un moment donné, elle donne un peu l'exemple de... tu vends des espèces de petits gâteaux, mais sur un bâton de sucette. Est-ce que t'es un gâteau ou est-ce que t'es une sucette?
Ouais.
Et en fonction de « ah bah je suis une sucette ou un gâteau », l'audience sera pas du tout la même, le moment de la journée où les gens vont t'acheter sera pas le même, etc. Et en fait, on se rend bien compte que le simple fait de changer le mot change l'expérience. ouais. et change la manière dont les gens, le moment ouais. où les gens vont penser à nous, etc. Donc je peux comprendre effectivement le fight paiement ou transaction, tu vois.
Et donc on l'a traduit par, enfin bon, je peux pas raconter la jeunesse, c'est de se dire en fait, on avait des contradictions fortes. Est-ce qu'on est du trading ou est-ce qu'on est du paiement Et en fait, on les a fait converger. Alors ça prend du trafic. Dit comme ça, en disant en fait, on est un nouvel acteur, Cross Border Payments, qui fait les deux. Tous ceux qui font pas les deux, ils sont out. Donc déjà, on a sorti plein de gens. Tous les gens qui faisaient que du téléphone, ils sont out. Tous ceux qui font que du en ligne, ils sont out. Et on a, nous, craqué le fait qu'il fallait mélanger de la tech et du human touch. Il fallait assumer ce qui pouvait paraître contradictoire dans un monde de scalabilité où il faut que des IA, en disant non, nous, tu auras toujours un humain au bon moment. C'est ça le cross-border payment. Parce que quand tu es CFO, que tu fais un paiement en Chine, tu sais pas où il arrive ou que tu as un problème de volatilité, t'attends pas 3 semaines avant d'appeler, t'appelles tout de suite. Et t'as besoin d'avoir quelqu'un, un expert, qui connaît ta boîte, qui te connaît, qui peut appeler. Et ça, c'est notre ADN. Et donc, le mélange des deux, c'est devenu notre ADN, c'est devenu notre proposition de valeur. T'as des visages sur notre site. Enfin, voilà, après, tu déroules. Mais le fait d'identifier ça comme une force et pas une fight en interne entre il y a les gens de la tech et les sales et d'en faire une force, bah, c'est tout le travail que tu dois faire de positionnement. Et c'est assez puissant.
Voilà. Et on voit que la conclusion de ça, c'est « Trust beyond borders ».
Voilà.
Et c'est une phrase qui mixe très bien, tu vois, ce qu'on était en train de se dire.
Et après, maintenant, tu vas aller sur le site, tu vas dire « Ah ouais, je comprends, tout ça ». Voilà, c'est jamais parfait, mais ce que je veux dire, ça donne tellement une idée directrice que tu résous beaucoup de sujets en disant « Oubliez pas qu'on a ces valeurs-là, on a les secrets de sauce, c'est quoi, pour ceux qui connaissent les storytelling, c'est quoi nos super pouvoirs ?» Non, ça aide beaucoup, beaucoup.
Ce travail donc de rebranding, plateforme, etc. Là, donc tu disais bon travail de 6 mois, du fight en interne et tout. J'imagine très bien. Pour la petite anecdote, on sort d'à peu près 3 mois de ce genre de boulot, notamment avec Enguerrand, mon associé. On a eu pas mal de fight aussi, donc je comprends très très bien, tu vois. Bon, y avait moins de personnes à mettre autour de la table, donc ça a été plus rapide. Le point de départ, c'est quoi? C'est vision, mission, valeur?
Ouais. Mais en fait, quand je suis arrivé chez IBAN First, le premier truc qu'on m'a dit de faire, et je me faisais emmerder tous les 6 mois en me disant « t'en es où ?» Et j'étais à plat total, je faisais rien, quoi, parce que j'ai attendu une éternité, quoi. On a commencé le truc au bout de... Ça fait déjà plus de 3 ans, quoi. Parce que je le sentais pas, parce que je comprenais pas la boîte, parce que voilà, parce que... Donc c'était mon gros trou noir. On allait faire des levées de fonds, on disait raconter l'histoire un peu en copycat des autres. Puis je sais pas, à un moment donné, franchement, je me suis senti moi à l'aise à prendre le risque. Tu connaissais souvent la boîte aussi, parce que tu parlais de fight. En fait, c'est pas que du fight, c'est aussi et donc connaître bien les patrons commerciaux.
Bien sûr.
Enfin, on en avait beaucoup parlé, on s'était vu. Enfin, à un moment donné, c'est aussi une histoire de personnes qui se connaissent et qui créent quelque chose ensemble. Donc, je pense que c'est pas un truc que, enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas dans une boîte en disant boum, tu le fais, quoi. C'est quand même assez. Enfin, c'est assez sensible. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps, mais c'est vrai que ça manquait. On sentait depuis le début, même moi quand je suis arrivé, qu'il y avait un truc, quoi. Mais ce truc-là, on n'arrivait pas à le nommer. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un énorme travail en interne. C'est-à-dire que tu vas voir, on est 350, je pense que tu interviews les 350 pour leur demander qui on est. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui derrière, on est cross-border payment. J'espère au marketing. non, mais c'est vrai qu'on a maintenant un travail après aussi, les gens qui arrivent, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, on l'a craqué, quoi.
Ok, top. Donc, tu mentionnais le passage de lead gen à demand gen.
Oui.
Lead gen qui est en fait, finalement, alors, tu as déjà un petit peu teasé le truc, mais lead gen qui est un peu le playbook qui plaît aux sales parce que c'est du volume, c'est héroïste, etc. Et tu disais comme quoi culturellement, vous êtes une boîte très très portée sales. Et là, du coup, il faut basculer sur quelque chose de très demand gen autour de la marque. On ne sait pas exactement comment on va mesurer. C'est peut-être un peu du long terme, etc. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre en interne de basculer d'un playbook à un autre?
Alors déjà, je pense que j'ai la chance de qu'on fasse confiance, tu vois. Donc en fait, on était à un moment donné où déjà l'acquisition marchait bien. On a fait d'autres choses à côté, plus à outbound. On a aidé sur d'autres parties de la outbound qui nourrissaient finalement ce besoin de lead. On a fait du scrapping de database sur des éléments de change et choses comme ça. Donc entre guillemets, on a fait un peu ce travail de MQL et de SQL vis-à-vis des sales. On y reviendra peut-être. On a fait tout un travail pour aider sur le funnel, améliorer les ratios de conversion, etc. Donc ça, on était vraiment team sales, enfin team marketing qui fournait du lead. Donc on a fait du lead gen. Et entre guillemets, on nous a un peu laissé tranquille sur la partie inbound. On a surtout travaillé avec les équipes SDR, réception du call. Enfin, même s'il y a un formulaire derrière, il y a un appel qualifiant très important. Il faut appeler vite, il faut répondre vite, il faut bien qualifier. Donc, on a fait beaucoup de travail et d'itération avec une partie des sales sur l'inbound. Et puis, on peut fermer nos gueules. Hein, pendant, on n'a rien dit, on a vu, voilà. Au bout d'un moment, les gens ont commencé à nous dire, la qualité augmente. Cool, il y a moins de mauvaises qualités. Bon, il y a toujours plein de mauvaises inbound, mais on a commencé. Puis en fait, au bout d'un moment, c'est un peu en fin d'année, on a vraiment un outil de tracking sales et marques, enfin tout global. On a commencé à regarder les chiffres au-delà des sensations, et là on a dit, bah regardez, en fait, c'est quand même assez marquant la différence. Et donc, encore une fois, moi, je suis en train de tuer le MQL, enfin, sortir de plus en plus de ces histoires de marketing. Enfin, déjà, culturellement, j'ai toujours détesté le mon lead du marketing, du sales. Même si ça revient toujours, il faut justifier aussi tes investissements. Mais là, je suis plutôt en train d'évoluer vers quelque chose où on a un funnel, on a des actions communes, on travaille ensemble de manière intelligente. Après, mesurer la performance, c'est un autre sujet. Décorréler, je dirais, l'intelligence de ce qu'on doit faire de la mesure. Donc, pour moi, aujourd'hui, un inbound, c'est pas marketing. Un inbound, c'est un inbound de la boîte. D'ailleurs, oui. Il y en a plein. C'est des sales qui parlent à des copains et qui recommandent. Donc, entre guillemets, ce qui est important, c'est de savoir, il y en a. Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Oui. Et comment on en a plus? Si on en a plus en faisant des pub ads, ben on fera plus de pub ads. Si on en a plus en ayant des actions commerciales, on fera des actions commerciales. C'est plutôt comme ça la logique. Après, de dire le marketing, est-ce qu'il fonctionne ou il ne fonctionne pas, je dirais que c'est presque un autre sujet sur lequel on bosse pour ne pas mélanger les deux. Quoi. Voilà. Mais ça reste une grande transformation encore à mettre en place. Donc, pour revenir à ta question, on a la chance quand même d'avoir de la confiance. On nous a laissé le temps. Le cold calling et la outbound marchent super bien côté sales. Donc, on a aussi été... c'est une façon protégée et grâce à la machine qui marche, tu vois ce que je veux dire, on a 8 ans. Tu vois, on m'aurait dit, il faut que tu fasses 100% des leads pendant 3 mois. Je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas pu le faire, en tous les cas.
Oui, c'est, au final, c'est un peu ta chance. Quoi,
D'avoir eu le temps, de nous avoir fait confiance, d'avoir Mathieu Lacombe qui nous a rejoint, un investissement qui a été fait aussi sur des choses vraiment haut de funnel, de awareness et brand. Enfin, tout le monde ne peut pas... On l'a fait au bon moment,
bien sûr.
En 2022. Quand on avait vraiment les moyens. Donc je considère que c'était vraiment une chance d'avoir... Mais il fallait la saisir aussi, tu vois. Il fallait prendre le risque de se dire, on met de côté une grosse partie de notre investissement et de notre stratégie. On se donne rendez-vous dans un an, puis on verra.
Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth, et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc., ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Il y a aussi une particularité, donc on a parlé du fait que boîte très orientée sales.
Oui.
Vous avez une autre particularité, c'est que boîte qui a levé des fonds et dernièrement boîte rejoint par un fonds de private equity, je ne sais pas exactement comment on dit.
Mais si.
Voilà. Donc investissement d'un fonds de private equity qui sont des acteurs, donc aussi bien VC, on va dire, et private equity qui ont vraiment un prisme performance sur à peu près... tout ce qu'ils regardent.
Je te confirme.
Et donc, là, encore une fois, tu vois, lead gen, demand gen, et ces sujets d'awareness, etc. C'est quoi le discours, encore une fois, que tu tiens face à des acteurs comme cela?
Ouais. Alors, déjà, je pense que le timing a été vraiment hyper bon pour nous, parce qu'au moment donné où on avait ce... je vais un peu dire, la différence entre private equity et VC, c'est le VC, on est quand même sur une valo de société, d'accord, qu'on gonfle selon la croyance que chacun, ça va grossir. Voilà, donc, mais c'est un très bon modèle, enfin un sain, avec tout mon espoir que derrière, on va vendre plus cher. Donc c'est quand même très dépendant des effets de marché aussi extérieurs. Et on l'a vu, malheureusement, c'est que l'augmentation des taux d'intérêt a eu un effet désastreux sur les valorisations de boîtes. Et donc tous ceux qui avaient des très grosses valos se sont retrouvés un peu coincés. Et quand tu es coincé sur ta valo en VC, tu ne peux pas faire grand-chose.
Ouais.
Le private equity, historiquement, ce qu'on appelait le cap dev en France, etc., c'est des boîtes profitables. Donc c'est-à-dire que tes fondamentaux, ce n'est pas lié à l'extérieur, c'est lié à ton business à toi. Tu es profitable, tu fais des revenus, tu as un multiple de ton EBITDA, ton revenu. Mais donc d'une certaine façon, que ça monte ou que ça descende, tant que ton business est bon, ta boîte, elle vaut bien. Okay. Ton facteur peut changer, mais ce n'est pas aussi dramatique.
Oui, il y a un peu moins de croyances, il y a des modèles pour calculer. Et puis voilà.
Tu vois, donc tu étais à x10 du revenu, tu es à x7. Bon, ça, tu perds 30% de la valeur, ce qui peut être beaucoup, mais comme tu grossis, ça va. Et on a eu des boîtes qu'on fait, la valo a divisé par 10, 50, mais sans changer les fondamentaux.
Mais...
Et qu'est-ce que tu fais, voilà. Et il se trouve que nous, parce qu'on est sur du transactionnel, parce qu'on est sur un modèle particulier, le modèle VC, enfin, c'est un peu technique, mais le modèle VC où tu vas chercher du capital pour financer quelque chose qui n'est pas que de la tech, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Donc Pierre-Antoine a dit, voilà, les fonds de private equity, c'est bien, ça s'appelle du gros equity, tu mélanges de la dette et des boîtes pas encore profitables, donc ça correspondait très bien à notre modèle. Et donc nous, un peu par nature, on a été chercher des fonds de private equity qui nous ont dit, alors que tout le monde levait, on n'était pas une licorne, voilà, mais bon, on s'est dit, ah mince, on n'est pas une licorne, mais tant pis, on pense que c'est ce qu'il faut faire, nous a amené à la profitabilité. Donc on est profitable, on aurait été, mais ils nous ont quand même bien orienté là-dessus. Et aujourd'hui, en 2023, on est profitable, enfin en 2024, mais on était profitable en 2023, au moment où il fallait. Donc en fait, ils nous ont amené exactement là où on doit être aujourd'hui en termes de valo de boîte ou d'histoire, c'est-à-dire qu'on est hyper sain, on est profitable, et puis on a continué à avoir une croissance de malade. Voilà, on n'est pas tombé dans le piège. Donc ça, c'est important de le comprendre, parce que du coup, en tant que marketeur, en tant que CMO, bah, ça joue beaucoup. Alors, pour répondre à ta question par rapport à qu'est-ce que ça change, il faut savoir parler à un fonds de private equity. Donc, il faut savoir, je pense que ça, c'est aussi mon expérience d'entrepreneur, etc. Faut, comme un VC, il faut comprendre déjà qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Bon, beaucoup de chiffres. Bon, je suis à l'aise avec ça. Synthèse de chiffres, je suis moins à l'aise avec ça. Donc, il faut vraiment faire un effort pour avoir des KPI clairs, rentrer dans leur canon. Donc ça, c'est pareil, je connaissais pas mal les standards SaaS, donc il faut bien les maîtriser. Il faut parler leur langage, quoi. Et on a en face des gens qui bouffent de la donnée toute la journée, qui connaissent par cœur tous les ingrédients. Donc il faut soit être à l'aise avec ça, soit avoir des gens autour qui en bouffent pour pouvoir expliquer la donnée. Donc il faut rentrer dans ce jeu-là, mais qui est, pour un CMO, assez naturel. Hein. C'est très analytique. Très...
En tout cas, ça devrait l'être.
Voilà, donc... moi, ils m'ont donné un outil qui s'appelle le Plan of Record, qui est un truc qui descend tout le funnel. On en a fait une machine de guerre en 2023, qu'ils adorent. J'ai même présenté à tout leur portefeuille Marlin. C'est Marlin, le Private Equity, Fonds de Private Equity, à tout leur portefeuille, parce qu'ils trouvaient génial la façon dont ils utilisaient leur outil. Donc, voilà, c'est rentrer dans ce jeu de la donnée, du KPI, de bien mesurer, bien reporter.
Attends, excuse-moi, mais ce Plan of Record, là, donc c'est un outil... que eux ils t'ont donné parce qu'ils avaient besoin de ces informations-là. Ouais. Et toi, tu trouvais que l'outil était bien, donc tu l'as carrément intégré dans tes process, en fait.
Voilà. En fait, peut-être fais zoomer là-dessus. C'est un tableau Excel, c'est con, qui dit, pour faire tant de revenus sur le nouveau business, il faut tant de clients. Pour tant de clients, il faut tant d'opportunités. Pour tant d'opportunités, bon, bref, ça remonte tout, mais avec un truc qui intègre le temps, qui intègre des éléments. Voilà. Donc, première fois, on fait l'Excel. Et on dit, bah, il faut qu'en janvier, j'ai tant de nouveaux leads par canal, par pays, par tout ce qu'on veut. Donc, c'est un truc assez, quand même assez touffu pour arriver à mon résultat dans un an. Le gros avantage par rapport à des conversations sales, c'est d'éviter de dire, ce mois-ci, il faut que je fasse plus d'argent. Comment je fais? Non, en fait, c'est trop tard pour ce mois-ci. Enfin, pas trop tard, il y a des actions au très court terme. Mais regardons ce qu'on doit faire maintenant pour gagner plus dans 3 mois, dans 6 mois. Donc, c'est vraiment... intégrer une vraie projection de funnel. Mais c'est un Excel à la base, qui est un modèle de prévision, plan of record de ton modèle. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on l'a rendu live, c'est-à-dire dans un tableau, hein, le logiciel tableau. Et en fait, chaque année, en début d'année, on l'écrit. Mais c'est nombre de leads par canal, par pays. Donc, c'est un truc, un gros tableau Excel qu'on définit avec les sales en fonction des targets. Et ensuite, à la journée, à la semaine, au mois, on le suit. Et on a des modèles, donc on sait qu'on doit avoir tant de transformations à tous les étages du funnel. Et en fait, on regarde juste les variations. On regarde ce qui est en rouge. Donc on dit, tiens, ce mois-ci, le taux de transfo Pays-Bas au niveau des SDR, il est en orange ou rouge. Pourquoi ? Ah, alors on appelle le gars, il dit, oui, mais j'ai recruté des nouveaux SDR, ils vont mettre un mois à être formés, donc c'est normal. Ou au contraire, on a un problème, etc. Donc ça nous a permis de piloter vraiment le funnel. Et c'est vrai que moi, j'aurais montré un jour, ils m'ont dit, bon, t'en es où dans ton plan of record ? J'aurais montré l'outil en live avec les couleurs rouge et verte. Ils ont fait, ah, oh c'est bien ça. Et on reviendra pour aligner les sales et les. Ça, c'est génial aussi, parce qu'on a les mêmes chiffres, les mêmes indicateurs, on a des vraies conversations de. Puis voilà, c'est jamais parfait, il y a des trucs qui marchent moins bien, et tu arrives à soit recruter, soit former, soit améliorer tes leads, soit. On a vu. Le site web, ça fait partie des éléments. On a vu les taux de transfo exploser grâce à ça. Et ça, on l'a vu tous ensemble, c'était objectif. Voilà. Donc, ça, c'est voilà, pour revenir. C'est ce sujet de rentrer dans les outils du fonds de private equity. Et à partir de là, c'est une question de confiance. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a montré qu'on comprenait le jeu et qu'on a amené du good business, quand on est arrivé en disant, voilà, on va faire du demand gen, vous ne connaissez pas, hein, et qu'on a dit, voilà, on va prendre une partie du budget pour faire ça, on va le mesurer comme ça. C'est vrai qu'il y avait une confiance qui était là. Bon, c'était bien que ce soit effectivement effectif au bout d'un an, mais c'est aussi une création de confiance. Une relation de confiance et puis une relation de voir les gens régulièrement, de partager. Hein,
mais parce que tu vois, c'est quand même un peu abstrait. Évidemment, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis en fait c'est une affaire de confiance et il faut machin, mais faut quand même avoir une histoire à raconter pour embarquer les gens et gagner la confiance. Donc si t'as pas de data à leur donner immédiatement, ouais. Qu'est-ce que tu leur donnes ?
La data. Ouais. C'est de la data, c'est que de la data. Oui, c'est que de la data. T'as raison, hein. C'est que ça. C'est bien processé de la data. Alors, je dis, c'est pas jeu, hein. C'est, enfin, évidemment, avec le DAF, avec le CRO, avec, enfin, on travaille en équipe pour avec Pierre-Antoine pour former des. C'est un travail d'équipe, hein. Mais en tous les cas, la partie. Moi, j'étais un peu sponsor de l'acquisition parce que c'était un peu ça. J'avais pas mal à fournir les chiffres là-dessus. Mais c'est de la data, ouais.
Et tu prends aussi du benchmark marché, des choses comme
benchmark
ça.
Benchmark marché à fond. Alors ça, c'est génial. Bon, c'est vrai avec les VC, avec les modèles d'operating partner. C'est-à-dire que moins les fonds VC, mais les fonds private, ils ont des gens dédiés qui payent. Bon, qu'on paye un peu aussi à travers des frais de gestion. Mais en tous les cas, c'est des gens qui sont là pour t'aider. Et donc accéder à d'autres CMO, d'autres stacks, beaucoup d'outils. On a des trainings, on a beaucoup de choses pour nous aider. Et donc effectivement, tu as accès à beaucoup de ressources et puis de personnes pour t'améliorer, quoi. Donc ça aide pas mal.
Ok. Et du coup, je voulais parler de l'alignement sales market. Et du coup, tu disais comme quoi ça rejoint aussi un petit peu ce sujet-là. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour aligner les efforts sales market ?
Ça reste compliqué. Je pense que par nature, on n'a pas les mêmes. Alors, pour avoir géré des équipes sales, j'en parle en plus. Bon, c'est vrai que l'objectif final est quand même très orienté revenu. Plutôt court terme pour un sales, heureusement.
Oui.
On est dans un marché, nous, transactionnel, donc c'est-à-dire que c'est hyper important. Et donc je suis ravi que tous les sales soient à regarder tous les jours, tous les mois.
En day-to-day, ouais.
Et pour financer l'activité. Donc ça, c'est par nature. Et nous, market, on est plus quand même à essayer de préparer l'avenir. Donc déjà, on a un décalage temporel fort.
Oui, c'est un travail d'amplification des performances.
Voilà. Nous, dans une approche internationale, un sales, il va être focalisé sur son marché, son pays. Nous, par nature, on essaie d'être multi-pays. Donc déjà, tu peux avoir tous les sales disent que leur marché, il est unique, il est spécifique, ça sera différent, ça ne marchera pas pareil. Ce qui est vrai. Nous, marketing, on va expliquer que tu vas voir, on va réussir à faire des choses communes, etc. Donc il y a beaucoup de sujets de tension qui sont par nature. Bon, la data... Je pense que la data, ça c'est vraiment encore une fois, les sales sont très data, donc ça c'est bien. Donc il faut vraiment s'aligner sur la data, on a parlé du plan of record. éviter tous les sujets de ma data, ta data. Donc, l'élite du marketing, ça sent vraiment pas bon. Ça sent déjà le truc qui est en tension. Donc, il y a des leads, il y a des opportunités, il y a du business. D'avoir la data commune, c'est hyper important. Et après, il y a aussi beaucoup de... Il faut passer du temps avec eux, hein, au sens... nous, en tant que marketeurs, il faut qu'on sorte de notre tour d'ivoire. Il faut qu'on aille voir les clients, qu'on appelle les clients. Ça, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, au niveau de l'équipe. Parce que comprendre aussi la vraie vie du sales qui se prend des baffes toute la journée. Et donc, je pense qu'il y a cette forme d'empathie comme travail à faire. Et puis, après, ce qui a marché, c'est travailler par projet. Donc le rebranding était un projet, l'outil était un projet, on travaille sur la rétention en forme de projet. Donc, et puis avec des équipes, nous on a dans plusieurs pays, embarqué des gens sur des projets avec des appétences, training des sales, etc. Et travailler en équipe sur un peu les pods ou les squads pour casser un peu les silos et sur tous les sujets, que ce soit le pricing, le messaging, on trouve toujours... des sales qui ont une appétence, qui ont de l'expérience et qui adorent être impliqués, quoi. Donc, ce travail de change en impliquant des gens, ça, c'est un truc à faire aussi tout le temps. Le pire, c'est le projet marketing sorti de nulle part, en bout de course. On fait encore, enfin, je veux dire, naturellement, on a envie de le faire parce que c'est pénible d'aller demander. Mais okay. Forcer, en tous les cas, forcer moi les équipes et puis à passer du temps avec... quelques personnes, parce que tu ne peux pas arriver tout le monde, mais tu vas avoir ça sur le long terme, ça marche. Mais ça reste long et
bien sûr.
Ça reste un sujet.
Mais du coup, vous avez des rituels, je sais pas, des meetings en weekly ou des choses comme ça ou...
Je te dirais oui et non, on essaie d'en mettre en place, mais c'est plutôt les projets ad hoc, moi, je pense, qui apportent de la valeur. Et d'ailleurs, avec de plus en plus le produit aussi, et donc des projets transverses, c'est ce qui marche le mieux. Les gens se connaissent, les gens travaillent ensemble, ont un objectif commun, réussissent ensemble. Oui, on fait des revues de pipe, des revues de choses, des revues, bien sûr, il faut communiquer. Mais la vraie valeur, c'est quand tu vas à la guerre ensemble ou tu crées un truc ensemble, ça n'a pas de prix, quoi.
Ouais.
Je suis plus là-dedans, moi.
Ok. Et justement, côté data, donc tu as mentionné les data un peu classiques du pipe, lead, blablabla. C'est quoi sinon, toi, les data que tu regardes de manière très régulière?
On m'a pris pour un psychopathe parce que le fameux outil, je crois que je sais pas la peine si je le regardais pas 10 fois par jour. Parce qu'après, il y a beaucoup de fils. Donc, je regarde beaucoup cette acquisition. De plus en plus, la rétention. Pareil, on est en transactionnel. Donc, ce qui est très intéressant, et ça, c'est un truc qu'on est en train de mettre en place, nous, c'est de lier les indicateurs business de revenus aux indicateurs d'usage de la plateforme. Parce que nous, il peut y avoir des corrélations. Imanforce, c'est gratuit. Tu peux venir t'inscrire et utiliser plein de choses. Si tu ne fais pas de paiement de devise, nous, on ne touchera pas d'argent. Et d'ailleurs, on touche une fraction qui est transparente. Donc en fait, il y a des gens qui nous utilisent plus que finalement ce qu'ils nous donnent comme argent, et inversement. Et surtout, on voit de plus en plus de signes, nous, dans le comportement d'usage. Alors ça, c'est beaucoup côté produit. Ils font un travail de malade, mais qu'on essaye, nous, d'exploiter en tant que marketing produit pour aider le go-to-market sur est-ce qu'il n'y a pas des corrélations entre les signes d'usage du produit et des upsell ou downsell potentiels. Donc, on regarde de plus en plus cette partie-là, qu'on regardait moins avant. Et la partie acquisition, je ne dirais pas que ça roule, mais elle est regardée de manière assez classique et donc régulièrement, mais les nouveaux enjeux, c'est plutôt autour de l'usage du produit. Donc presque être product-led, c'est un peu...
Ouais.
On n'en est pas là, mais je pense qu'on a, on a beaucoup à apprendre de cette partie-là.
Sachant que c'est le produit et le générateur de revenus.
Alors, oui et non, parce que encore une fois, on a toute une partie qu'on appelle du hedging ou la couverture. C'est-à-dire que tu vas utiliser la plateforme, c'est facile, c'est génial, tu fais tous tes flux en paiement, donc ça c'est super. Voilà, et nous, on gagne de l'argent sur les flux en devise. Encore une fois,
c'est la partie product-led.
Ça, c'est la partie product-led. Mais à un moment donné, tu vas vouloir fixer un taux dans le futur, une couverture.
Oui.
Et ça, c'est une couverture.
Oui.
À terme, on commence à les faire en ligne, mais c'est surtout
sales.
Ça, c'est très sales. Et c'est une partie du revenu. Donc en fait, on n'a pas que du product-led revenu.
OK. Côté tools, vous utilisez quoi?
Je te dirais que je considère qu'on n'est pas très bon. Enfin, quand je dis pas, on est Salesforce HubSpot. le classique du classique.
C'est déjà très bien.
Enfin... C'est déjà très bien. Non, mais c'est vrai que pour aligner encore une fois les sales, HubSpot, je vais pas faire de la pub, mais c'est vrai que c'est quand même hyper pratique. T'as beaucoup de choses tout en un, etc.
D'ailleurs, sur quel use case HubSpot, sur quel use case Salesforce?
Donc CRM Salesforce, vraiment la gestion, on va dire, de l'opportunité, et de la qualification sales, jusqu'à la gestion de plus en plus du client, de la rétention. Nos fameux cases de KYC, d'onboarding qui sont un peu spécifiques, on les fait via Salesforce. Donc ça c'est bien aussi, ça nous aide bien à faire converger les différents process. Et marketing, plus de manière classique sur le lead au sens génération lead, plutôt en amont dans le funnel. Et après sur de l'automation de CRM sur des clients plus standards, c'est-à-dire on commence à automatiser de plus en plus des services, des news auprès de certains clients dans le background. Voilà.
Donc, le marketing côté HubSpot, les sales côté Salesforce.
oui, bien sûr. Oui.
Ok.
Oui, pour faire simple.
Okay. Et quoi d'autre comme outil?
C'est un peu ça. On utilise de manière assez classique des stacks de grosses. On va avoir du Lusha pour l'enrichissement de contact. On va regarder des solutions pour l'emailing. On va regarder. Mais globalement, on a beaucoup développé en interne. Et là, avec l'IA, en plus, je me remets un peu sur les sujets. Je vois qu'il y a plein d'outils qui soit existent, soit se sont développés. Et donc, je considère qu'un des gros sujets qu'on a aujourd'hui, nous, c'est nous équiper avec plus des nouveaux outils. On utilise des trucs très avant-gardistes, plutôt en avance de phase. En ce moment, on utilise pas mal EdgeN sur la génération de vidéos.
Ah,
c'est génial.
Ok.
Alors,
d'accord.
On fait des trucs assez. Donc, on a l'objectif parce qu'on génère beaucoup de contenu. Et donc, ça, c'est EdgeN pour ceux qui. C'est vraiment génial. C'est vraiment le. Pendant 3 minutes, on se fait enregistrer en vidéo en racontant n'importe quoi. Et à partir de ces 3 minutes-là, on peut générer autant de vidéos qu'on veut de cette personne-là, racontant tout ce qu'on veut dans n'importe quelle langue. Donc notre CRO, on lui a fait raconter sa recette de pasta. Et maintenant, on génère des news en interne, en roumain, en hongrois, où il raconte le taux de change actuel, etc. Et ça marche super bien. Peut-être pas en externe.
Avec la bouche qui suit.
Ah, ça suit, voilà.
Non, alors, c'est incroyable.
C'est incroyable. Le truc, c'est que c'est un peu statique. Tu vois que c'est un peu robot. Dans notre histoire de trust, nous, on se dit que c'est...
Pour moi, EdgeN, c'est le tool wow effect par excellence.
Ah bah ouais. Puis en plus, on lui a renvoyé lui-même en hongrois la news qu'il avait fait la veille. Ça marche très bien. Voilà. Donc là, mais là, toi, on est plutôt sur l'expérimentation POC qu'on veut éduquer. On fait aussi beaucoup de POC autour du LLM, des chats GPT qu'on utilise nous beaucoup. On a développé un outil qui permet, tu rentres le nom d'une boîte, ça t'analyse les sites web par rapport à notre secteur pour avoir une fiche pour le sales déjà tout prête avec les news, etc. Donc, ça, c'est plutôt de la R&D presque qu'on fait nous-mêmes. Mais je trouve qu'entre la R&D qu'on fait, qui est hyper importante, parce que ça te permet de comprendre les outils, les limites, quand il y a un vendeur qui vient avec un outil, tu peux le challenger parce que tu l'as fait un peu, tout ça. Et le classique HubSpot Salesforce, je pense qu'aujourd'hui, il y a une stack Martech dont j'entends parler dans ton podcast beaucoup, sur lequel nous, on doit renforcer sur beaucoup de sujets. Toujours les mêmes problématiques. Hein, on a des problématiques de... identification des cibles, enrichissement des données, gestion des segments, séquence de segments, multicanaux. Enfin bon, toutes ces stacks-là, aujourd'hui, on n'est pas très bien équipés, je trouve, là-dessus.
Qui sont globalement des outils que tu as mentionnés, très axés outreach, sales, etc.
Très outreach, sales. Oui. Après, sur... après, on est assez classique, hein, notre marketing. Nous, encore une fois, nos cibles, c'est des directeurs financiers, des gens qui sont... Donc, on fait des events, webinaires, du contenu que les gens lisent. Donc, et là-dessus, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus les AI generated pour générer. Mais notre philosophie, c'est plutôt quand même de toujours mettre de l'humain, plutôt d'être sur la valeur que sur le volume. Donc, on dirait, c'est un peu marketé, mais 100% de nos contenus sont initiés par un ChatGPT. Mais 100% sont relus et finalisés par un être humain. Parce que, parce que sinon, ça...
Je comprends.
Voilà. Enfin, en tout cas, nos clients ou prospects, ce qu'ils recherchent, c'est aussi une certaine forme de qualité de valeur.
Bien sûr. En interne, là, on fait un peu des tests aussi avec, avec ChatGPT. Par exemple, Charlotte, qui travaille avec moi, qui est ma Content Marketing Manager. En fait, ce que je lui disais, c'est que quand, par exemple, il y a des moments où on est en train de créer du contenu avec du ChatGPT, j'ai l'impression qu'on fait de la langue de bois.
Ouais, t'as un côté...
je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est des phrases un peu longues, ouais. Où tu fais machin, on a l'impression que t'es en train de tourner autour du pot. Je lui dis, mais là, quand on dit ça, on est en train de rien dire, en fait. Tu vois,
ouais, t'as... Bon, après, ça aide, ça te structure.
Mais c'est sûr, c'est sûr. Non, mais par exemple, pour faire des plans de contenu, c'est génial. Voilà. Pour faire ce genre de choses, évidemment. Par contre, après, pour faire du rédactionnel pur, c'est vrai que, bon, un humain fait ça mieux.
Ouais.
Et c'est tant mieux, d'ailleurs. OK, bah, on a parlé d'IA, mais c'est quoi, globalement, toi, les tendances que t'observes sur votre marché ?
Sur l'IA ?
Non, sur...
Ah, les tendances globales.
Autre, parce que l'IA est une des tendances, oui. J'imagine, mais...
Alors, je vais te dire, hein, c'est le cross-border payment, c'est vraiment cette catégorie, ça peut ouais. paraître un peu, mais j'y crois fondamentalement, c'est-à-dire que d'un marché où tu étais globalement avec un service de gens au téléphone ou ton banquier qui dit, bon, bah, faire payer en Chine, c'est comme payer en euros, c'est pareil. On comprend maintenant que ça devient stratégique. Donc, les grosses tendances, c'est des investissements tech forts. Donc, c'est vraiment des acteurs de la tech. Comme nous, qui investissent, qui est un peu nouveau par rapport aux salles des marchés, tu vois, à un moment donné. Donc ça, c'est dans notre secteur, c'est quelque chose de peut-être classique dans notre secteur, mais pour nous, c'est un vrai secteur. Il y a une vraie transformation. Alors c'est pour ceux qui connaissent un peu le monde du comptable, des accounts, ce qu'on appelle les accounts payables. C'est-à-dire, tu reçois une facture et en fait, tu fais un paiement parce que c'est un peu le flow de base, peut-être avec un bon de commande. Ça peut vraiment se révolutionner. Parce que finalement, recevoir une facture que quelqu'un va saisir dans un outil, qu'ensuite tu vas mettre dans un outil, que tu vas mettre chez nous pour faire le paiement, pour après... Enfin, on marche un peu sur la tête quand même. Donc en fait, je pense qu'il y a une digitalisation, ça s'appelle trade finance, etc. Il y a beaucoup de sujets. Les processus financiers au sens large, mais pas que les nôtres, vont se digitaliser très fortement. Il faut garder la compétence de garder le contrôle. Donc c'est tout l'enjeu. Donc ça, pour nous, c'est des vraies opportunités d'aller plus vers cette digitalisation, toujours avec notre human touch, toujours à savoir à quel moment tu dois pouvoir contrôler, à quel moment tu peux pouvoir intervenir. Parce qu'on gère des flux stratégiques que tu peux pas non plus... tu vas pas payer automatiquement tous tes fournisseurs sans réfléchir. Mais c'est vrai que cette automatisation des process, et on le voit avec beaucoup aussi d'acteurs, par exemple comme Penny Lane pour la partie compta, qui sont en train ouais. de travailler là-dessus. Ça, je pense que c'est vraiment... ça va être l'avenir. Avec les banques comme partenaires de compte, c'est hyper important d'avoir un acteur sur lequel tu mets tes fonds, puis une sorte de forme de prêt, voilà, un acteur. Mais on va avoir ce modèle avec des plateformes tech qui vont gérer beaucoup plus la finance des PME. Ça, c'est une grosse tendance de fond dans laquelle on s'inscrit complètement. Ouais.
OK. Mm. Et du coup, c'est quoi vos prochains challenges ?
Prochain challenge, alors au sens global, justement, je pense qu'on a... ça reste quand même... La rétention reste un sujet important. C'est toujours dur de dire, ah, tes clients, ils sont super contents. Mais l'arbitrage, en train de dire, est-ce que je ne vais pas finalement... faire mes paiements avec ma banque. Ma banque peut me dire, si vous faites, je vous donne un prêt, ça a peut-être pas mal de rapatrier vos fonds chez nous. Donc on a un sujet de rétention, un sujet de valoriser plus aussi ce qu'on fait, tout en gardant notre modèle transactionnel sans souscription. Donc ça, c'est des enjeux de pricing qui sont très importants. On a un enjeu à l'international. On est dans 10 pays. Ça, c'est plus même côté market. Comment on fait pour grandir ? Bon, ça, c'est un vrai sujet où je n'ai pas craqué le truc. Parce qu'on ne peut pas mettre des personnes partout. Par contre, avoir tout en centrale, ça ne marche pas bien. Donc, trouver le bon équilibre, ça, c'est compliqué.
Surtout avec 10 pays. Quoi.
10 pays et pas non plus assez de... Voilà, on n'est pas assez gros pour pouvoir vraiment investir massivement. Donc ça, c'est en tous les cas, pour au moins la prochaine année, ça va être le gros enjeu. Non, en fait, on n'a pas d'enjeu structurel de base. C'est plutôt gérer la croissance, gérer la scalabilité. Oui, oui. Donc la rétention est clé, c'est-à-dire que tu peux faire l'acquisition que tu veux, une bonne rétention, ça c'est hyper important. Et c'est du travail, puisque plus tu grossis, plus les trucs qui te sauvaient. Donc c'est là où nous, en tant que marketing, on intervient de plus en plus pour essayer justement d'aider les sales dans la partie rétention. on a les portefeuilles des account managers qui ont explosé, ce qui est super, mais ils ont explosé. Donc, comment on les aide à garder le même niveau de qualité avec chaque client, mais en étant accompagné. Donc, ça, c'est des enjeux de scalabilité de boîte hyper, hyper importants.
Mais du coup, c'est quoi, vous avez d'un point de vue rôle, vous avez des nouveaux rôles de customer.
Nouveaux rôles, segmentation client. C'est ce que j'appelle la segmentation des clients. Ça, c'est hyper important. Tous les clients n'ont pas les mêmes attentes au même moment.
Bien sûr.
Ce human touch, à quel moment tu interviens, c'est. Un peu au début, hein, on appelait tous nos clients une fois par semaine, c'était la bonne pratique. La question, c'est plus maintenant, avec de l'intent, à quel moment tu dois appeler ton client, équiper les account managers et les CSM avec des outils pour eux, qu'ils puissent mieux faire leur travail, pour mieux accompagner nos clients. Et ça, côté marketing, nous, c'est plus notre ADN, donc on est plus à travailler sur ces sujets-là.
Ça, c'est vraiment important. Très bien. Outbound ?
Outbound, voilà, c'est comme on disait, l'outbound cold calling, hein, c'est il y a eu tellement d'équipes SDR qui se sont créées de partout que tout le monde s'est fait appeler par tout le monde. Donc je pense que le cold calling, au-delà de nous, notre secteur, c'est quand même les gens ont moins envie d'être appelés. Déjà, ils n'avaient pas tellement envie, mais ils ont moins envie. Donc faut qu'on réinvente un peu, enfin qu'on réinvente, qu'on le seconde. Et donc c'est pareil, c'est un enjeu et c'est compliqué, hein, parce que les emailing, enfin toucher nos clients finalement en outbound, ça reste un enjeu compliqué. Donc ça, c'est un vrai gros sujet. Est-ce que c'est outil ? Est-ce que c'est équipe ? Est-ce que c'est les deux ? Ça, c'est un gros sujet aussi.
Donc rétention, outbound, internationalisation.
Ouais.
Et sur l'international, tu vois, ça m'intéresse aussi qu'on puisse creuser, parce qu'effectivement, je pense que l'équilibre, il n'est pas évident à trouver. Mais là, aujourd'hui, le choix qui est fait, en tout cas, c'est 100% global, côté market.
Même côté IBAN First, hein. Je veux dire, nous, enfin, je veux dire, c'est pas que. Enfin, qu'on dit 100% global, c'est. Non, évidemment, on a des pays locaux, enfin, on a des équipes locales, etc., mais on a une plateforme qui est unique.
Oui, ça, bien sûr. Ça, ok.
Et des process. Donc après. Ah oui, alors côté market. Aujourd'hui, quand même, et c'est aussi lié à notre histoire de profitabilité, on est quand même assez héroïsé, donc on peut pas avoir une personne du marketing dans chaque pays. D'ailleurs, je ne sais pas si ça dépend vraiment des personnalités, parce que si tu vas mettre une personne marketeuse seule au milieu de 15, 20, 30 sales. ça peut être compliqué. Donc, ce n'est pas forcément un cadeau. Donc, il y en a qui fonctionnent très, très bien. Et puis, on a eu beaucoup d'échecs aussi de personnes qui étaient soit trop digitaux, soit trop sales, finalement, qui n'avaient pas le playbook. Donc, déjà, là-dessus, je suis pas clair. Problème d'investissement et de coût qui fait qu'on ne peut pas avoir autant de personnes. Et puis, une volonté avec quand même les outils de globaliser un peu beaucoup ce qu'on raconte quand même. Donc aujourd'hui, notre setup, qui n'est pas parfait, c'est on utilise beaucoup les équipes sales locales pour profiler. Et on parlait de ChatGPT, c'est-à-dire qu'un article a été un peu généré, traduit. Alors on utilise pas beaucoup de ChatGPT pour traduire, mais quand même, on a des process hyper automatisés, plus automatisés possible pour traduire. À la fin, ça, le sales, il va lire en proofreading exactement comme le client, le prospect, assez vite. Donc, il va pas non plus être pointilleux comme proofreader spécialiste qui va tout te refaire. Par contre, il va dire, ce mot-là, il est vraiment bizarre, ou ça, il faut pas en parler. Donc, le proofreader local, sales, je trouve que c'est le meilleur setup avec une automatisation centrale. Ça, c'est mon monde idéal. Bon, après, encore une fois, c'est vraiment un sujet sur lequel je suis pas complètement. J'ai pas forcément setup. Donc, je m'appuie beaucoup sur les sales, qui sont top pour ça, sur des bonnes volontés locales. Mais pour scaler à horizon de 2 ans, il faut que j'améliore ça, quoi.
Tu disais, c'est avec la bonne volonté, mais la bonne volonté, ça ne scale pas toujours.
Oui, voilà. C'est
puis le temps des gens. Quoi.
Le temps des gens. Puis nous, là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a vraiment créé une équipe product marketing qui est pure puissante. Donc, en plus du demand gen, qui génère des campagnes hyper intéressantes, on a des trucs géniaux, mais ça engorge encore plus le canal et donc la nécessité localement. Donc, d'où les AGN, d'où vraiment regarder tous ces outils pour essayer de comprendre comment on peut changer les formats de contenu vers des choses qui sont plus vidéo, un peu moins texte aussi. Enfin, en tous les cas, équilibrer les deux. Et puis, essayer d'automatiser, mais en gardant un contrôle humain local. C'est un peu une vision. C'est pas très concret encore toujours, mais c'est ça que j'essaye de mettre en place.
Oui, mais comme tu disais, en fait, là, vous êtes pile poil dans un espèce de de trucs où, ok, on est capable de faire des choses en global, c'est pas parfait. En même temps, on n'a pas forcément les moyens et ce serait pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent d'avoir du monde partout en local. Ouais. C'est le compromis, quoi.
C'est le compromis.
Là c'est un peu ça ton truc, en fait. C'est que t'essaies de trouver le bon compromis, quoi.
Ce qui peut peut-être, à mon avis, la voie qui peut, qu'on voit qui peut nous aider, c'est qu'il y a quand même un retour du physique et des events très fort.
J'allais y venir sur du coup, côté événementiel, comment...
On a un peu, comme tout le monde, tout arrêté avec le Covid. On a redémarré peut-être un peu tard. On a réinvesti beaucoup, de plus en plus sur certains pays. On se rend compte que ça marche hyper bien. Il y a une vraie demande. Donc ça, c'est aussi, on réinvestit le champ de l'événement en classique marketing avec nos clients, aussi pour la rétention. Ça, c'est, je dirais, si on peut être community-led, j'en rêve, on en est loin. Mais en tous les cas, dans l'esprit, avoir vraiment travaillé autour de nos communautés de clients, ça, c'est vraiment un sujet très, très, assez physique, au sens où les gens doivent se rencontrer. Ça peut être aussi un bon ancrage, c'est-à-dire réinvestir de ce côté-là avec peut-être des équipes ou des prestataires locaux qui investissent sur cette partie événementielle qui est forcément locale. Alors là, pour le coup, tu parles la langue locale, il n'y a pas de choix. Enfin, nous, en tout cas, dans notre métier, il faut parler hongrois, bulgare, roumain et sans accent, il faut être natif. Donc ça, c'est du local. Et d'en faire ça un noyau, si tu veux, de marketeur pour pouvoir après en scaler sur la partie contenu. Ça, c'est plus mon plan court terme.
Ouais. Encore une fois, c'est le compromis, quoi.
Encore une fois, c'est un peu le compromis.
Mais ça marche bien.
C'est vrai.
Ok. Écoute, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a fait le tour du sujet. Tu vois un autre point?
Non, c'est...
Moi, ça me semble bien. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Pour les personnes qui veulent te contacter, qui veulent en savoir plus, qui veulent... comment ça se passe?
Grand plaisir, community-led, LinkedIn. Le mieux, c'est LinkedIn. Non, franchement, comme tu le sais, on aime bien réseauter, on aime bien discuter, pas mal échanger. Donc vraiment avec LinkedIn. David Romo, je crois que... David Romo, Iban First, je crois que je suis le seul. Donc
A priori, oui. Super. Merci beaucoup, David.
Merci beaucoup, Jordan. Merci.
Merci à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il reste à faire. Le like, l'abonnement, le commentaire, tout ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci.